Annie Regon présente Du patrimoine et des hommes dans Carrefour des Arts.
Bonjour, ici Annie Regon. Bienvenue dans ce Carrefour des Arts consacré aujourd'hui aux monuments et aux hommes, et plus particulièrement à la vie et à la carrière d'Émile Malle. Émile Malle, qui était membre de deux académies, l'Académie des inscriptions et belles-lettres et Académie française, a en effet eu une longue carrière entièrement consacrée à l'histoire de l'art, et en particulier à l'histoire de l'art du Moyen-Âge, mais pas seulement, ainsi que nous allons le voir. Qui était donc Émile Malle? Émile Malle est né dans le Bourbonnais, dans le département de l'Allier, près de Montluçon, dans le bassin industriel de Montluçon, plus précisément à Commentry, le 2 juin 1862. Il a donc eu une petite enfance dans une région à la fois très rurale, mais en même temps marquée par l'industrie. Son père, qui était ingénieur des mines, en effet, avait été nommé ensuite à Saint-Étienne, et c'est dans cette ville de Saint-Étienne qu'il a fait ses études secondaires. Très tôt, il avait voulu avoir une carrière consacrée à l'art. En effet, il aurait voulu être peintre, chose qui est assez peu connue. Et on conserve, à Commentry, dans sa ville natale, quelques peintures murales qui ont été déposées et présentées actuellement au musée, qu'il avait peintes pendant ses vacances. Les peintures exécutées par Émile Malle ne sont pas des peintures d'une très très grande valeur artistique. Elles portent la marque de l'influence de la peinture symboliste de la fin du XIXe siècle. Mais ça reste tout de même une œuvre intéressante et qu'il faut bien sûr conserver de façon précieuse. Donc il aurait voulu devenir peintre, mais le père d'Émile Malle s'y oppose, sa mère aussi, et on lui demande de choisir une voie un peu plus sérieuse. Comme c'est un très bon élève et que sans doute aussi il voulait faire plaisir à ses parents, après son bac, il passe le concours de l'École normale supérieure où il est reçu. Il est reçu donc en 1883 à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Là, il a comme confrère, comme coreligionnaire Joseph Bédier, qui est né en 1864, donc 2 ans après lui, et qui mourra beaucoup plus tôt en 1938, Joseph Bédier, que l'on peut comparer à Émile Malle, puisqu'il a découvert un certain nombre de textes médiévaux, et ils ont dû probablement avoir de nombreuses conversations ensemble. Donc pendant ses études, Émile Malle est certainement un étudiant très studieux, mais il y a un événement qui se produit en 1885, alors qu'il est élève à l'École normale supérieure. Il assiste en tant qu'acteur, en quelque sorte, aux funérailles de Victor Hugo. Il fait partie des jeunes gens qui tenaient le poil, c'est-à-dire qui tenaient le ruban sur le cercueil du grand homme. Et il écrit à ses parents, après cet événement, il était complètement épuisé parce qu'ils ont traversé Paris. Évidemment, c'était une sorte d'épreuve qui lui avait été imposée, mais naturellement, il était très fier d'avoir été parmi les jeunes gens qui avaient accompagné Victor Hugo dans sa dernière demeure. L'année d'après, en 1886, il est reçu premier à l'agrégation de lettres classiques. Et à ce moment-là, lorsque l'on était reçu premier à l'agrégation de lettres classiques, eh bien, en général, il était très facile d'obtenir une bourse pour partir parfaire son éducation sur l'Antiquité à l'école d'Athènes. Ce qui lui est accordé, c'est en quelque sorte la voie royale qui s'offrait à tous les normaliens bien reçus à l'agrégation. Mais le sort va en décider autrement. Pendant les vacances, il part avec un ami à Florence. Et là, il a une révélation. Alors qu'il visite à Santa Maria Novella, l'un des trois cloîtres, le Chiostro Verde, il a la révélation de la peinture murale florentine de la fin de l'époque médiévale. Il est absolument ébloui par la beauté des peintures, mais aussi par la cohérence de l'iconographie. Il est fasciné en particulier par toutes les allégories des sibylles, des arts libéraux, enfin tout ce que l'on peut voir dans ce Chiostro Verde, dans le cloître vert, donc puisque c'est le Chiostro Verde, c'est le cloître vert de Santa Maria Novella. Il a vraiment là la révélation de sa vie. Il pense qu'au lieu de partir étudier l'Antiquité à Athènes, il va étudier l'art du Moyen-Âge. Il renonce donc à sa bourse de l'école d'Athènes, ce qui est assez rare, et il accepte de travailler dans un lycée, d'être professeur du secondaire au lycée de Saint-Étienne. Donc, il se trouve aussi que sa mère était malade à ce moment-là et il ne voulait pas s'éloigner trop de ses parents. pendant qu'il dirige les études des jeunes gens, il va continuer ses propres études et il va faire une thèse sur l'art du Moyen-Âge. Thèse qui se dédouble en deux thèses, ainsi qu'on le verra un petit peu plus loin. Après Saint-Étienne, il est nommé à Toulouse. Et là, à Toulouse, il a une révélation artistique, une de plus, qu'il ne pouvait certainement pas avoir à Saint-Étienne, qui est une ville plutôt quand même industrielle, assez démunie en ce temps-là d'œuvres d'art. Donc à Toulouse, eh bien là, il va avoir la révélation des chapiteaux romans. Des chapiteaux romans, pas tellement des chapiteaux romans in situ, mais des chapiteaux qui sont conservés au musée des Augustins, qui est un musée très riche en œuvres romanes provenant d'églises démolies de Toulouse. Et ces chapiteaux romans, on imagine bien comment il a pu avoir une nouvelle révélation. En fait, on les voit beaucoup mieux que s'ils étaient en œuvre dans le monument. On les voit à hauteur d'homme. Et il faut savoir que Émile Malle était extrêmement myope et que, comme tous les myopes, il avait un sens de l'observation très très aigu. Il regardait vraiment avec beaucoup d'acuité tous les détails que beaucoup de gens n'avaient pas vus avant lui. Donc il va là avoir une révélation de plus et avoir aussi de nombreuses réflexions. Ça va susciter chez lui toute une réflexion, toute une pensée sur les origines de la sculpture médiévale. Dès 1894, il publie un article intéressant où il préconise l'enseignement de l'histoire de l'art au lycée. Eh bien, s'il revenait aujourd'hui, le grand homme, il pourrait réécrire le même article, puisque en France, on s'obstine à ne pas enseigner l'histoire de l'art dans les lycées, ce qui, à mon avis, est bien dommage. En 1898, il présente sa thèse. Sa thèse, donc, qui concerne l'art religieux en France au XIIIe siècle, et en particulier les problèmes iconographiques. Cette thèse sera publiée en 1899. Et sera sans arrêt reprise par lui. C'est-à-dire que ça n'est pas le chercheur qui a passé sa thèse comme un simple exercice pour pouvoir avoir le titre de docteur. Au contraire, sans arrêt, il a toujours retravaillé ses publications. En même temps, il publie aussi une thèse en latin sur les Sibylles qu'il avait si bien découvertes au Chiostro Verde de Santa Maria Novella. C'était obligatoire en ce temps-là. On faisait toujours une thèse en français et une thèse en latin, surtout donc Émile Malle, qui était agrégé de lettres classiques, il devait absolument s'exprimer dans cette langue. Et en 1908, il est nommé professeur d'histoire de l'art sous le titre archéologie médiévale. Il est le deuxième à occuper cette chaire. C'est une discipline qui est complètement nouvelle, qui commence à se différencier un petit peu de l'archéologie antique et de l'archéologie du sous-sol, on va dire. C'est une discipline qui, en fait, a peiné à trouver sa place et je dirais même qu'aujourd'hui, elle ne l'a encore peut-être pas tout à fait trouvée parce que l'histoire de l'art est souvent confondue avec l'archéologie, avec l'histoire des techniques, avec l'histoire tout court, avec la création artistique, avec aussi l'esthétique qui est une part de la philosophie. Il ne faut pas confondre toutes ces disciplines. Et Émile Malle, lui, avait vraiment bien compris, il avait extrêmement bien senti qu'elle pouvait être l'apport de l'histoire des formes artistiques et de leur contenu, qu'elle pouvait être cet apport aux sciences humaines. Et donc à partir de 1908, il va enseigner à la Sorbonne cette discipline, donc en ce qui concerne le Moyen-Âge. Et il continue à publier de nombreuses contributions et études sur l'art médiéval français. Mais on va voir que petit à petit, son champ de recherche va s'élargir considérablement. D'abord, après avoir soutenu sa thèse sur l'art religieux au XIIIe siècle, il va produire une publication sur le XIIe siècle, sur l'art roman. Et puis on verra que plus tard, il s'intéressera aussi à l'art à la fin de l'époque médiévale. En 1917, il publie le seul ouvrage qui soit vraiment contesté aujourd'hui, mais dans un contexte vraiment particulier. C'est un ouvrage sur l'art allemand et l'art français au Moyen-Âge, suite à des polémiques plus ou moins, on peut dire contestable aussi, qui s'était élevé en Allemagne. En fait, il répondait à des critiques. Ensuite, on a répondu à ses propres critiques. C'est une phase un petit peu difficile de l'histoire de l'art, je dirais aussi de l'histoire tout court, entre la France et l'Allemagne. On peut dire que là, c'est peut-être la seule fois où on voit Émile Malle être en prise avec l'actualité. Parce que autrement, il travaille vraiment, lui, comme un chercheur totalement indépendant. En 1918, il est élu à l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et là, il va beaucoup travailler, comme beaucoup d'historiens de l'art, à des questions d'iconographie et de recherche en général, de recherche des sources littéraires des œuvres d'art. En 1922, donc, il publie son ouvrage sur l'art religieux au XIIe siècle. En fait, il s'agit de plusieurs articles qu'il avait publiés dans diverses revues qu'il a regroupés en même temps, ensemble, donc, pour pouvoir offrir un ensemble cohérent de recherches qui est vraiment resté très très intéressant, même encore aujourd'hui, et pourtant Dieu sait si les recherches sur l'art roman ont avancé. Et en 1923, Émile Malle est nommé directeur de l'École française de Rome. Il a alors 61 ans et il succède à Monseigneur Duchesne. Cette fonction n'a rien d'honoraire. C'est un travail important. Il faut en particulier guider les jeunes chercheurs français dans leurs recherches. Il faut les aider, leur ouvrir des portes, les aider à accéder en particulier à la bibliothèque du Vatican, à d'autres bibliothèques étrangères, à des fonds d'archives. Il faut aussi les aider à rédiger, à publier leurs travaux. Enfin, c'est un rôle vraiment fondamental. Émile Malle va s'y donner avec beaucoup d'énergie, comme tout ce qu'il faisait. Il va également ouvrir l'école aux jeunes filles, puisque la première jeune fille à être admise à l'École française de Rome le sera pendant sa direction. Madame Émile Malle joue aussi un rôle important. C'est très remarqué par les habitants à ce moment-là de la communauté scientifique romaine parce que avant Émile Malle, Monseigneur Duchesne évidemment n'avait pas d'épouse et pour les réceptions à l'école, il était quand même plus agréable d'avoir une maîtresse de maison avisée comme l'était Madame Malle. Et c'est très important par rapport à toute la colonie française et même étrangère résidant à Rome et Dieu sait si elle est importante dans le monde de la recherche. Mais Émile Malle ne se contente pas de mondanité, vous vous en doutez bien. À Rome, il va encore une fois élargir son champ de recherche. Il va faire de longues promenades dans la ville aux mille églises, et là, il va élargir ses recherches dans deux directions. Il va s'intéresser, d'une part, au premier monument de l'art chrétien, au monument de l'Église primitive, de la chrétienté antique, et aussi, et ça c'est beaucoup plus nouveau par rapport à la recherche à l'époque, il va s'intéresser à l'art de la contre-réforme, à l'art qui a suivi le Concile de Trente. Il visite à peu près toutes les églises, on est étonné de voir à quel point il connaissait bien l'ensemble des églises de Rome, quand on retravaille son ouvrage, et là, il va avoir une attitude une fois de plus novatrice, c'est-à-dire la méthode qu'il avait appliquée à l'art du Moyen-Âge, il va l'appliquer en fait à l'art religieux après le Concile de Trente. Il recoupe les textes avec les œuvres. Il redécouvre en particulier le dictionnaire d'iconologie de Cesare Ripa qui était paru en 1593 à Rome et qui a été traduit en français d'ailleurs, au début du XVIIe siècle, mais qui à ce moment-là était complètement oublié. Et grâce à ces comparaisons qu'il établit entre les prescriptions données par Ripa et les œuvres que l'on peut voir dans les églises et les musées de Rome, eh bien, il retrouve ce langage oublié de la contre-réforme. C'est vraiment une révélation, là aussi. On peut dire qu'il a beaucoup, beaucoup fait avancer la recherche. Ces études sur la fin du paganisme et sur le début de la christianisation sont peut-être aujourd'hui moins lues, moins utiles, mais c'est tout de même à Rome qu'il a eu aussi l'occasion de se confronter à tous ces monuments du christianisme primitif. En 1927, Émile Malle est élu au fauteuil numéro 2 de l'Académie française. Il fait suite à Jean Richepin. Il travaille beaucoup, on est étonné de voir qu'il n'est plus un jeune homme, il continue encore à travailler énormément, il va avoir une retraite extrêmement studieuse. Il est nommé conservateur de l'abbaye de Chaly, c'est d'ailleurs là qu'il mourra en octobre 1954. Pendant les dernières années de sa vie, il va énormément encore publier, reprendre sans arrêt ses anciens travaux, qui sont annotés, il va également corriger certaines opinions qu'il avait émises pendant sa jeunesse, il va compléter par de nouvelles recherches. Donc on peut dire qu'il a maintenu son œuvre vivante. Et par chance, on peut dire que même après sa disparition, son œuvre est restée vivante aussi, puisque sa fille, Gilberte Émile Mal, a maintenu cette œuvre en suscitant de très nombreuses traductions, des rééditions, les rééditions des principaux ouvrages. Et ça, ce qui est très très bien, c'est que ces rééditions sont complétées de bibliographies à jour, ce qui bien sûr n'est pas le cas de beaucoup de livres anciens réédités. Gilberte Émile Mal a également veillé à la sauvegarde des peintures murales dont je parlais au début de l'émission, ces peintures exécutées par son père pendant sa jeunesse et qui ont évidemment une valeur plus représentative que véritablement artistique, mais qui sont présentées actuellement, comme je l'indiquais, au musée de Commentry. Gilberte Émile Mal a également créé un prix qui est destiné à récompenser des restaurations de monuments ou d'œuvres d'art situées dans le département de l'Allier. Donc de cette façon, la mémoire d'Émile Mal est toujours vivante et d'une façon positive, d'une façon qui n'est pas uniquement nostalgique. C'est donc un auteur extrêmement important qui a ouvert la voie essentiellement à l'étude de l'iconographie, donc à l'étude des sujets, de tous les sujets religieux et de la manière dont ils ont été traités de façon vraiment extrêmement différente, puisque il commence, on peut dire, à la fin de l'Antiquité pour aller jusqu'à l'époque baroque. Notamment cette époque baroque qui, dans les années 20 et 30 du XXe siècle, était complètement vouée aux gémonies et qui l'a ressuscité avec vraiment beaucoup d'érudition, mais en même temps un langage très poétique qui rend ses écrits très convaincants. Ce sont deux champs de recherche qui ne sont jamais épuisés. Alors naturellement, il a eu des détracteurs et des critiques, ce qui est normal pour tout auteur ayant un point de vue vraiment spécifique. Il a été assez critiqué par un chercheur américain, Kingsley Porter, qui reprochait à Émile Mal de ne pas avoir suffisamment pris en compte les échanges entre l'Orient et l'Occident, et en particulier avec l'Espagne musulmane, bien qu'il ait lui-même travaillé là-dessus. Il a été également critiqué par Michael Camille, un chercheur américain aussi, parce que ce chercheur américain trouve que Émile Mal s'attache trop au texte, au fond, et manque d'intérêt pour les formes et pour leur évolution. À mon avis, c'est une fausse querelle. L'histoire de l'art par les formes avait été faite en France en même temps que celle d'Émile Mal par Henri Faucillon, un autre grand historien d'art. Il n'avait pas du tout la même façon de travailler, c'est moins qu'on puisse dire, il ne travaillait pas du tout de la même manière, mais il se connaissait et se respectait, puisque nous avons la chance d'avoir conservé des échanges de lettres entre ces deux chercheurs, et on se rend très bien compte que même s'ils n'ont pas du tout le même angle d'approche, eh bien, ils étaient capables de rendre compte de la recherche de l'autre. Donc on peut dire que à peu près à la même époque, dans les années 20 et 30 du XXe siècle, l'histoire de l'art du Moyen-Âge se mettait en place dans notre pays grâce à ces deux grands chercheurs, Émile Mal et Henri Faucillon, et qu'actuellement, les chercheurs qui travaillent sur ce sujet sont toujours tributaires de ces deux chercheurs qui ont ouvert la voie. Nous allons avoir la chance ici sur Canal Academy d'avoir des lectures de correspondances inédites entre Émile Mal et quelqu'un qu'on n'attendait peut-être pas vraiment ici, Marcel Proust. En effet, Marcel Proust, pour sa recherche du temps perdu, avait besoin d'indications précises concernant surtout l'art gothique et donc pour cela, avec beaucoup d'humilité, il s'est adressé à Émile Mal qui a accepté avec sa générosité habituelle de le renseigner sur l'art gothique de l'Île-de-France. Donc ça donnera lieu à une prochaine émission. Voilà, je vous remercie.